des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Virginia Crespo.
Le 23 juin 2010, l'auteur, metteur en scène de théâtre, scénariste de film, Jean Anouilh, aurait eu 100 ans. Jean Anouilh est né en effet en Gironde, à Bordeaux, le 23 juin 1910. Il est mort le 3 octobre 1987 à Lausanne, en Suisse. Au cours d'une première émission, en compagnie de l'une des quatre filles de Jean Anouilh, qui porte le prénom de l'une des héroïnes d'une célèbre pièce de son père, Colombe, Colombe Anouilh d'Harcourt, entourée du professeur Beugnot. Professeur Beugnot qui a dirigé les deux volumes consacrés à Anouilh dans la collection La Bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard. Christophe Mercier, critique littéraire, auteur du livre Pour saluer Jean Anouilh, nous avions, devant les micros de Canal Académie, évoqué la vie et l'œuvre de Jean Anouilh. Nous allons poursuivre cette évocation grâce à de larges extraits sonores d'une belle émission de télévision réalisée et commentée par Claude Santelli, produite par les films Pénélope, dirigée par Leslie Grumbert. Nous commençons cette évocation avec le rappel de la fascination exercée sur Anouilh par le théâtre de Shakespeare. Écoutez bien, tout de suite après, le comédien Jean-Pierre Marielle vous fera la lecture d'une lettre-réponse touchante, attachante, pleine de confidences lourdes et réservées que Jean Anouilh lui adressa personnellement.
Shakespeare, Jean Anouilh ne peut pas dire non. C'est pour lui une vieille connaissance, une lointaine fascination. Et dans Hamlet, tout particulièrement, la scène de la mer, comme une obsession.
Chère Marielle, merci pour votre lettre. On ne pense jamais à s'écrire ce genre de choses, et après tout, cela fait beaucoup de plaisir. La carte m'a ravi. Ma mère était musicienne d'orchestre, mon père mobilisé, et de 1915 à 1928, à peu près, j'ai vécu 3 mois par an dans ces endroits. J'étais le fils de la pianiste. J'entrais partout, les musiciens, les garçons de café, les croupiers, les putains et les dames du vestiaire ont été les fées qui se sont penchées sur mon berceau. Ajoutez que je connais par cœur à peu près tout le répertoire d'opérettes du Grand Mogol aux cloches de Corneville, vu tous les soirs. Il y avait encore des troupes fixes dans les casinos et le ton de mon théâtre, qui fait froncer le nez des intellectuels, ne vous étonnera plus. En septembre, je serai à Paris.
Une mère pianiste, la tournée des casinos, Bordeaux, où il naît en 1910, on ne saura jamais tellement plus des origines ni de la jeunesse de Jean Anouilh. Un enfant qui ne peut s'endormir la nuit en attendant le retour de sa mère. Quelle blessure est née alors pour qu'on voit Anouilh plus tard dans son œuvre déchirer et noircir comme à plaisir les images de la famille, de la mère, des casinos.
Extrait de la pièce « L'arrestation » avec Geneviève Fontanelle et Didier Raymond.
Nous sommes beaux, Minet. Nous sommes jeunes. Nous nous sommes aimés 2 fois ce soir. Une fois par terre dans son salon, une autre fois sur la banquette de ta voiture. Et nous allons recommencer tout à l'heure dans la chambre. Nous puons l'amour. Regarde-les. Regarde-les. Ils le sentent. Ils le reniflent. Ça pue l'amour ici depuis que nous sommes entrés. Ils s'en le foutent soudain. Leur joli casino bien propre. C'est le désordre. C'est le bordel.
Frédéric Fernet.
Qu'est-ce qu'il nous dit, Anouilh ? Il nous dit « il n'y a d'amour qu'absolu ». Or, l'amour absolu est impossible. Il nous dit « la famille, c'est ignoble, la fouille, c'est ignoble ». Et il se terre dans son trou de souris, comme ça, rêvant dans les parages de l'amour fou, et puis tentant une sortie contre la foule, toujours ignoble, nous, c'est-à-dire nous.
Extrait de Colombe, avec Daniel Lebrun.
Il est trop ridicule, il est trop laid. Mais tu me vois dans les bras de Poitieri. Poitieri ayant enlevé sa redingote.
en caleçon, ça doit être un drôle de spectacle.
Et tu sais pas le plus beau, il a des jartelles. Des jartelles bleues ciel que sa femme lui a brodées.
1932, L'Hermine. Joué par Pierre Fresnay, le premier de ses héros d'Anouilh est pris de pureté. Qui choisissent le refus, le crime, la fuite, la mort, le non à la vie.
Nathalie Cerda lit Eurydice.
Alors, une supposition. Si on a vu beaucoup de choses laides dans sa vie, elles restent toutes dans vous. Bien rangées les unes à côté des autres. Toutes les images sales, tous les gens, même ceux qu'on a haïs, même ceux qu'on a fuis. Tous les tristes mots entendus, tu crois qu'on les garde au fond de soi. Et tous les gestes qu'on a faits, la main se les rappelle encore, tu crois? Tu es sûr que même les mots qu'on a dits sans le vouloir et qu'on n'a jamais pu rattraper, ils sont encore sur notre bouche quand on parle?
Mais oui, ma folle.
Attends. Attends, ne m'embrasse pas. Explique-moi plutôt. C'est sûr ce que tu viens de me dire ou si c'est seulement toi qui le penses? Il y en a d'autres que toi qui l'ont dit?
Bien sûr.
Des savants? Enfin, de ceux qui doivent savoir les choses, de ceux qu'on peut croire?
Oui.
Mais on n'est jamais seul alors. Avec tout ça autour de soi. On n'est jamais sincère, même quand on le veut de toutes ses forces. Si tous les mots sont là, tous les sales éclats de rire, si toutes les mains qui vous ont touché sont encore collées à votre peau, alors on ne peut jamais devenir une autre.
Jacques Nerson, critique dramatique.
Il y a une blessure inguérissable. Il y a la blessure de la pauvreté, dont il ne guérira pas, puisque... Je crois qu'on en... Enfin, il nous l'explique lui-même très bien. On n'en guérit pas. On ne guérit pas d'avoir été pauvre. Et d'avoir été vraiment pauvre, comme il l'a été, semble-t-il, notamment dans ces années où Jouvet, avec une cruauté pour un chrétien assez condamnable quand même, se plaisait à l'appeler publiquement le miteux.
Louis Jouvet règne sur la Comédie des Champs-Élysées. C'est là qu'à 18 ans, Jean Anouilh reçoit la révélation du théâtre avec Siegfried de Jean Giraudoux.
Nous écoutons la voix de Jean Anouilh.
J'avais été secrétaire de Jouvet quand j'avais 20 ans. Et c'est très difficile de trouver du talent à son secrétaire.
Jouvet ne lit pas ses manuscrits.
Puis le voyageur, ça l'avait fait quand même. Ça lui avait donné un... J'avais vu son œil de faune s'allumer. Mais mon petit, on va voir. Mais tu comprends.
Et conduit, méconnu par Louis Jouvet, Anouilh va être accueilli par Georges et Ludmila Pitoeff.
Roger Laurent, comédien, homme de théâtre.
Je répétais une pièce au Théâtre des Mathurins avec Georges Pitoeff. Nous voyons brusquement Georges Pitoeff descendre de la scène et s'avancer vers le fond de la salle. Arrive un monsieur très discret. Après, nous avons pris, c'était Jean Anouilh. C'est la rencontre de Jean Anouilh et de Georges Pitoeff, leur première rencontre. Je pense que ce jour-là, c'était vers 36, la saison 36-37, je pense que ce jour-là, Anouilh devait avoir sous le bras le manuscrit du Voyageur sans bagage. Et c'est la première fois que Georges Pitoeff et Jean Anouilh se sont rencontrés. C'était deux hommes extraordinaires, aussi timides l'un que l'autre. On ne savait pas lequel des deux était le plus timide des deux.
Alors vraiment, pour la première fois de ma vie, j'ai été épaté de voir qu'un homme qui avait eu cette pièce la veille me disait tout ce que je ne savais pas.
Que vous
pas
pressentiez que, oui, peut-être, mais que vous n'aviez pas vraiment senti.
Je ne pouvais pas dire que j'avais écrit, et il le savait. Et il l'a monté 8 jours plus tard, on répétait.
Je crois que dans le cartel... Il est certain que Pitoeff était le plus grand découvreur qui existe. Certains soirs, on se demandait si on allait jouer parce qu'on n'avait pas payé l'électricité. Et donc tous les acteurs se cotisaient pour payer l'électricité. Et on jouait tout de même.
1938, les Pitoeff créent encore La Sauvage d'Anouilh. Double triomphe pour cet auteur, car la même année, André Barsac monte Le Bal des voleurs. C'est André Barsac que Jean Anouilh va rejoindre à l'atelier que Charles Dullin, parti vers un théâtre plus vaste, vient de lui confier.
Stéphane Barsac, petit-fils d'André Barsac, je lis cette phrase d'Anouilh, André Barsac, le seul compagnon de ma jeunesse. C'est impressionnant.
Effectivement, André Barsac et Jean Anouilh se rencontraient très jeunes. Ils n'avaient qu'un an de différence d'âge. Et ils se sont rencontrés sur... la scène de la comédie des Champs-Élysées, où mon grand-père avait monté pour la première fois avec sa compagnie, la compagnie des Quatre Saisons, Le Roi Serf de Carlo Gozzi. À nous, il raconte qu'il avait assisté à cette répétition un peu par hasard et, surpris par ce que lui-même a appelé l'esprit d'enfance de la mise en scène, il est allé voir ce jeune inconnu qui était André Barsac.
Ils avaient des lunettes tous les deux.
Oui, ils étaient myopes tous les deux. Et les comédiens qui étaient souvent agacés de leur complémentarité, parce que l'un prenait la parole pour commencer une phrase que l'autre terminait, ils travaillaient main dans la main. Les comédiens, donc, les ont appelés les jumelles. Il faut dire aussi qu'ils avaient un lien. André Barsac avait été le disciple de Charles Dullin.
On est quand même dans un lieu hanté, là, hanté par le père Dullin, c'est une bonne référence. Mais là, c'est palpable encore, enfin pour moi.
Sur le plateau de l'atelier, Jean-Denis Malclès, complice de Jean Anouilh, au lendemain de la guerre à partir de 1948. Le théâtre, dit Anouilh, le théâtre est le seul lieu au monde où l'aventure humaine est au point. Et encore, vous apprendrez qu'ici, au théâtre, c'est la vie comme elle est. Les décors des autres, sous les apparences, ne sont pas plus stables que les nôtres.
C'était vraiment sa demeure principale. C'était le lieu qui lui convenait par excellence. C'était le lieu où tous ses rêves, ses fantasmes, que sais-je, se réalisaient.
Sur le théâtre de l'atelier flotte toujours la grande ombre de Dullin. « Je ne donne pas cher, écrit Anouilh, des réformateurs ni des prophètes à l'heure des comptes. Mais comme à tous les saltimbanques, c'est au vieux sorcier de la place d'Ancourt qui a étonné notre jeunesse que nous nous apercevrons que nous devons beaucoup. »
Jacques Nerson, critique dramatique.
Et puis il y a rencontré des gens qui ont compté toute sa vie pour lui, même s'il les a pas, s'il n'a pas continué à les voir régulièrement, mais des gens comme aussi inattendus que Villars. Il y avait une sorte d'amitié et d'estime qui a survécu alors que leur parcours était radicalement opposé, Anouilh faisant la fortune du théâtre privé et Villars se lançant dans la grande aventure du théâtre populaire.
Je veux vous dire que moi, je vous tiens pour un de nos plus grands hommes de théâtre depuis les 30 ou 40 ans qu'on essaie de refaire le théâtre.
Il aurait rêvé, je crois, une rencontre entre les deux.
1944, Antigone, un coup de tonnerre.
C'est ici, dans ce théâtre de l'atelier, que pour la première fois vous jouez Anouilh.
Suzanne Flon.
Oui, dans Antigone. C'était en 44, pendant la guerre. Nous jouions La Lumière du Jour.
Je me souviens.
C'est un froid de canard. Sous ma belle robe blanche longue, j'avais des pantalons de ski resserrés en bas. Et quand on parlait, la buée sortait de la bouche tellement il faisait froid.
La lumière du jour.
À la lumière du jour, ben oui.
Mon grand-père avait trouvé ce système assez ingénieux d'ouvrir le toit de l'atelier et par un système de miroir, de faire en sorte que l'action de la pièce coïncide avec la tombée du jour.
Vous écoutez Stéphane Barsac, le petit-fils d'André Barsac. André Barsac, coéquipier de Jean Anouilh pendant 30 ans dans ses mises en scène.
Et comme la tragédie se termine sur la mort d'Antigone, évidemment, la nuit tombant, l'un rejoignait l'autre.
Face à face célèbre, crayon Antigone, Jean-David Monel Valentin, l'adulte et l'enfant, l'homme de pouvoir et la révoltée.
Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse à moi? Votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires. Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui.
Nathalie Cerda vient de prêter sa voix à Antigone. Michel Bouquet.
C'était un courage inouï de jouer une pièce sur la révolte et sur Antigone, sur la révolte, donc, face aux Allemands occupant voilà. Paris.
Et quand justement le rôle de Créon était de dire « il faut bien que quelqu'un tienne la barre », on pensait à tous les problèmes que pouvait avoir le gouvernement français. Et puis quand il disait Antigone, il y en aura bien quelqu'un, un petit jeune homme noir qui viendra un jour, on pensait à la résistance.
Mais bien entendu.
Non, c'était...
C'est un souvenir de théâtre absolument prodigieux. Et quand il m'a été donné de connaître Anouilh ensuite, pour moi, c'est C'était l'homme qui avait créé cet événement sublime, enfin, d'Antigone.
Michel Auclair et Jean Davy qui fut Créon.
C'est que la générale, ça a été une chose assez étonnante, c'est que personne ne croyait à la pièce.
Oui,
c'est ça. Je sais, c'est stupéfiant. Ni Anouilh, ni Barsac.
C'était un spectacle formidable.
Barsac disait la pièce, on va la jouer 20 fois, Anouilh 30 fois, et puis alors, le soir de la générale. Oui, 2000 fois. Et le soir de la générale, le rideau est tombé, et puis il n'y a rien eu.
Alors vous avez dit
pas un applaudissement, rien du tout. Enfin, on s'est dit, c'est raté. Ça
et puis,
il faut absolument chercher un autre engagement pour la semaine prochaine.
Puis ça a éclaté.
Et puis tout d'un coup, ça a éclaté, ça a été. Ce que tu sais.
Suzanne Flon.
Un tonnerre, oui, c'est vrai. Et ce que nous n'avons pas su, c'est que la pièce a failli ne pas se jouer. La censure, je l'ai su bien plus tard. Et jusqu'au dernier moment, la direction et Jean n'étaient pas sûrs que nous pourrions jouer.
Un soir, alors que les Américains avançaient en France, mon grand-père et Jean Anouilh ont distribué des tracts qu'ils avaient lancés depuis le haut du théâtre. Sur les spectateurs, tout à fait étonnés de voir ce geste de résistance, l'un des premiers, dans un théâtre.
Le grand débat est lancé, oui ou non, à la vie, au compromis de la vie. Débat qui va déchirer les Français, la presse clandestine ira jusqu'à accuser Anouilh de collaboration.
Vous entendez la voix de Jean Anouilh.
On n'irait pas Antigone à cette période-là sans être frappé par quelque chose autour de vous qui ressemble à ce thème. J'ai vécu depuis l'âge de 15 ans avec Antigone et Diproie. Alors, ça s'est tout d'un coup cristallisé à ce moment-là. Et j'ai senti quelque chose qui d'ailleurs a été partagé par le public. Il y a eu une résonance tout d'un coup étrange. Hein.
Maintenant, le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre. Rien. Un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue. Une envie d'honneur un beau matin au réveil, comme de quelque chose qui se mange. Une question de trop qu'on se pose un soir. C'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser faire. On est tranquille. Ça roule tout seul. C'est minutieux. Bien huilé depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont là tout près. Et les éclats et les orages. Et les silences, tous les silences.
Nathalie Cerda lisait Antigone. Saviez-vous que Jean Anouilh lui-même prenait un grand plaisir à lire chacune de ses pièces avant de les confier à l'interprétation des acteurs distribués dans ses pièces? L'artiste peintre Jean-Denis Malclès, collaborateur privilégié de Jean Anouilh, qui a travaillé avec lui pendant des années au décor des pièces de théâtre d'Anouilh, s'en souvient et en parle avec un enthousiasme émouvant dans le film de Claude Santelli consacré à Anouilh.
À la lecture de la pièce, il se passait un phénomène qui était vraiment superbe, que je n'ai vu nulle part, aucun. C'est qu'il lisait la pièce avec ses comédiens distribués à ce moment-là et il jouait tous les rôles. Et alors là, il y avait de sa part un mimétisme, si je peux dire, extraordinaire. Il jouait le rôle de petite fille, de femme, de vieille femme, de jeune femme, d'homme, de caractère, quelque chose, avec l'intonation. On assistait à un spectacle. C'était un ravissement et une émotion que l'on ressentait à chaque instant. C'était étonnant.
Suzanne Flon se souvenait aussi très bien des lectures de Jean Anouilh. Elle en témoigne et son témoignage fait partie d'un coffret double CD paru dans la collection À voix haute chez Gallimard. Nous écoutons son magnifique et émouvant témoignage. Suzanne Flon.
Il lisait merveilleusement ses pièces. C'était vraiment un régal de l'entendre. Et on savait tout de suite quel était le ton à donner, la ligne à suivre pour les personnages, c'était vraiment extraordinaire. C'était un grand, grand plaisir de l'écouter.
quand j'ai été contacté pour jouer la pièce, là, je ne l'avais pas entendu lire par Jean Anouilh. D'ailleurs, je n'étais pas la seule concurrente. On était au moins 20 ou 30, je ne sais pas. On a fait des auditions. Oh là là, le trac que j'ai eu pour l'audition, j'étais débutante. J'avais juste joué dans Le Survivant de Jean-François Noël, monté par Rouleau, avec Serge Reggiani dans le rôle principal. Alors vous imaginez que j'étais dans mes petits souliers, puis quand j'ai vu toutes les filles qui attendaient pour le rôle d'Ismène, et j'ai attendu au moins 15 jours avant qu'on me dise « voilà, c'est vous qui êtes choisie ». Alors là, ça a été la fête. Je sais que nous l'avons su plus tard, après la création, qu'on avait failli ne pas la jouer. Les Allemands voyaient ça pour un appel à la résistance à l'occupant. C'était la guerre, hein. Les Alliés n'avaient pas encore débarqué, alors le théâtre n'était pas vraiment en ordre de marche, il faisait très très froid. Alors on était couvertes en coulisses comme ça par des manteaux qu'on lâchait pour entrer en scène, et quelquefois on était interrompus par des alertes. Alors au début on allait dans la cave du bistrot en face, et puis après je crois qu'on restait là, on attendait que ça se passe. C'est un immense succès, un triomphe, la générale, ah oui. Ah oui, et semblable à celui de l'Alouette. L'Alouette aussi, ça a été un triomphe. Oh ben, il a eu beaucoup de grands succès, Anouilh. Puis des acteurs magnifiques, il a beaucoup utilisé mon cher Michel Bouquet. Anouilh suivait toujours de très près ses pièces. Là, c'était Barsac qui était le metteur en scène, mais il était là et ils travaillaient ensemble. Et toutes ses pièces, après, c'était Anouilh et Pietri, ils travaillaient ensemble. Mais Anouilh, oh là là, oui, il n'aurait pas aimé être loin des répétitions. Puis il adorait ça, les répétitions. Il était vraiment heureux quand il était dans un théâtre. Heureux et malheureux, parce que très inquiet. Et là, pour Antigone, il n'y a pas eu de problème, mais très souvent, on avait signé pour jouer une pièce, on n'était pas sûr de la jouer, parce que tout d'un coup, il s'angoissait. Il se disait, mais est-ce que c'est vraiment le personnage? Ça m'est arrivé pour Roméo Jeannette. Et je riais pas. Et un jour, on m'a prié de ne pas venir, on essayait quelqu'un d'autre. Puis le surlendemain, on m'a dit, vous pouvez revenir. Alors j'ai dit, à condition que ce soit sûr, ça je reviens plus du tout. Oh, j'ai surtout le souvenir que le soir de la générale de l'Alouette, au théâtre Montparnasse, il m'attendait dans la petite impasse là, qui mène aux loges pour me donner les dernières indications. Il est tellement inquiet. Alors déjà, on arrive avec le ventre en marmelade. Et il était là et il m'attendait de pied ferme depuis un bon moment. Il savait que j'arrivais de bonne heure. Anouilh, bien sûr, est devenu un ami très cher, puisqu'il m'a presque allié à sa famille, puisqu'il m'a demandé d'être la marraine de sa fille aînée, ma petite Caroline. Et il m'avait mise à l'aise, il m'avait dit, vous savez, c'est important quand on accepte d'être la marraine, ça veut dire qu'on peut remplacer éventuellement la maman si un malheur arrive. Et j'avais pas d'enfant, j'ai accepté avec grand plaisir. J'en ai jamais pris d'autres parce que ma filleule est très très possessive. Je me souviens quand Vital a eu un enfant, elle avait soupçonné que son fils était mon filleul. Elle m'a dit, j'espère que tu n'es pas la marraine de son fils. Je me méfiais beaucoup. Oui. Mais Anouilh c'était quelqu'un d'un peu méfiant, mais très tendre aussi, très... On pouvait s'adresser à lui quand on avait un problème, enfin, il était à l'écoute. Ce que je peux dire, c'est qu'il avait un humour extraordinaire à la ville aussi, dans ses pièces, mais oui.
Puisque Suzanne Flon a piqué au vif notre curiosité lorsqu'elle nous a parlé des lectures par Anouilh lui-même de ses pièces, nous vous proposons un extrait de la lecture d'Antigone par l'auteur lui-même, grâce à un passage d'un double CD paru chez Gallimard dans la collection à voix haute. Un CD intitulé « Jean Anouilh lit Antigone » et compare sa pièce à celle de Sophocle. Nous écoutons Jean Anouilh dans un extrait de la scène entre Antigone et sa nourrice.
Maintenant, la ville est sauvée, les deux frères ennemis sont morts, et Créon, le roi, a ordonné qu'à Étéocle, le bon frère, qui serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Pendant que le prologue parlait, les personnages sont sortis à un. Le prologue disparaît aussi. L'éclairage s'est modifié sur la scène. C'est maintenant une aube grise et livide dans une maison qui dort. Antigone entr'ouvre la porte et rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds nus, ses souliers à la main. Elle reste un instant immobile à écouter. La nourrice surgit. La nourrice. D'où viens-tu ? Antigone. De me promener, nourrice. C'était beau, tout était gris. Maintenant, tu peux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Elle va passer, la nourrice. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu n'es pas découverte en dormant et je ne te trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Tu es sorti. J'ai été à la porte du fond, tu l'avais laissé entrebâillée. Dans les champs, c'était tout mouillé et cela attendait. Tout attendait. Je faisais un bruit énorme toute seule sur la route et j'étais gêné parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissé dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me recoucherai pas ce matin. À 4 heures. Il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans. Tu crois que si on se levait comme ça tous les matins, ça serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors? La nuit. C'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu as été te promener, menteuse? D'où viens-tu? Antigone a un étrange sourire. C'est vrai. C'était encore la nuit. Et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice, j'ai cru au jour la première aujourd'hui. Fais la folle, je la connais la chanson, j'ai été fille avant toi, et pas commode non plus, mais dure tête comme toi, non. D'où viens-tu, mauvaise ? Antigone soudain grave. Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein ? Dis non, peut-être. Oui, j'avais un rendez-vous. Tu as un amoureux ? Oui, nourrice, oui, le pauvre. J'ai un amoureux. La nourrice éclate. Ah ! C'est du propre, c'est du joli. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi, à t'attiffer toujours devant la glace, à te mettre du rouge aux lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette, toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons ne verront qui se mettre. Avec ses bouclettes et ses rubans, ils me la laisseront sur les bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur, et pire encore, hypocrite. Qui est-ce ? Un voyou, hein, peut-être ? Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille, voilà, c'est lui que j'aime, je veux l'épouser. C'est ça, hein ? C'est ça, répondons, fanfaronne. Antigone a un sourire imperceptible. Oui, nourrice. Et elle dit oui. Miséricorde. Je l'ai eue toute gamine, j'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferai une honnête fille, et voilà. Mais ça ne va pas se passer comme ça, ma petite. Je ne suis que ta nourrice, et tu me traites comme une vieille bête. Bon, mais ton oncle Créon saura, je te le promets. Antigone soudain un peu lasse. Oui, nourrice, mon oncle Créon saura. Laisse-moi maintenant. Et tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit. Et Aimon, et ton fiancé, car elle est fiancée. Elle est fiancée, et à 4 heures du matin, elle quitte son lit pour aller courir avec un autre. Et ça vous répond qu'on la laisse. Ça voudrait qu'on ne dise rien. Tu sais ce que je devrais faire ? Te battre, comme lorsque tu étais petite.
Nounou, tu ne devrais pas trop crier. Tu ne devrais pas être trop méchante ce matin.
Pas crier ? Je ne dois pas crier par-dessus le marché. Moi qui avais promis à sa mère. Mais qu'est-ce qu'elle me dirait si elle était là ? Vieille bête, oui, vieille bête, qui n'a pas su me la garder pure, ma petite. Toujours à crier, à faire le chien de garde, à leur tourner autour avec des lainages pour qu'elles ne prennent pas froid ou des laits de poule pour les rendre fortes. Mais à 4 heures du matin, tu dors, vieille bête, tu dors, toi qui ne peux pas fermer l'œil. Et tu la laisses filer, marmotte. Et quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'elle me dira, ta mère, là-haut, quand j'y monterai. Et moi, j'aurais honte, honte à en mourir si je n'étais pas déjà morte. Et je ne pourrais que baisser la tête et répondre, Madame Jocaste, c'est vrai.
Non, nourrice, ne pleure pas. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Elle te dira bonjour, nounou. Merci pour la petite Antigone. Tu as pris bien soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sorti ce matin.
Tu n'as pas d'amoureux ?
Non. Tu te moques de moi, alors ? Tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée, malgré ton sale caractère. Ta sœur était plus douce, mais je croyais que c'était toi qui m'aimais. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Pourquoi ton lit était-il froid quand je suis venue te border ? Ne pleure plus, s'il te plaît, nounou. Elle l'embrasse. Allons, ma vieille bonne pomme rouge. Tu sais, quand je te frottais pour que tu brilles, ma vieille pomme toute ridée. Ne laisse pas couler tes larmes dans toutes les petites rigoles pour des bêtises comme ça, pour rien. Je suis pur, je n'ai pas d'autre amoureux qu'Aimon, mon fiancé, je te le jure. Je peux même te jurer, si tu veux, que je n'aurai jamais d'autre amour. Garde tes larmes, tu en auras peut-être besoin encore. Quand tu pleures comme ça, je redeviens petite et il ne faut pas que je sois petite ce matin.
Nous écoutons Jean Anouilh dans un extrait de la scène entre Antigone et Créon.
Vous croyez qu'elle s'est arrêtée? Qu'elle a essayé de se sauver peut-être? Non, elle a continué toutes ses forces aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l'ai empoignée, elle se débattait comme une diablesse. Elle voulait continuer encore, elle me criait de la laisser, que le corps n'était pas encore tout à fait recouvert.
Créon s'est retourné vers Antigone. C'est vrai? Antigone, oui, c'est vrai. Regarde,
on a redécouvert le corps comme de juste et puis on a passé la relève sans parler de rien et on est venu vous l'amener, chef. Voilà.
Et cette nuit, la première fois, c'était toi? Oui, c'était moi. Avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances. C'était justement la pelle de Polynice. Il avait gravé son nom au couteau sur le manche. C'est pour ça que je l'ai laissé près de lui. Mais ils l'ont prise. Alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains.
On aurait dû une petite bête qui grattait, même qu'au premier coup d'œil, avec l'air chaud qui tremblait, le camarade me dit « Mais non, c'est une bête !» Penses-tu, je lui dis, c'est trop fin pour une bête, c'est une fille.
Créon, c'est bien. On vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Pour le moment, laissez-moi seul avec elle. Conduis ces hommes à côté, petit, et qu'ils restent au secret jusqu'à ce que je revienne les voir.
Le garde, faut-il lui remettre les menottes, chef?
Non. Les gardes sont sortis, précédés par le petit page. Créon et Antigone sont seuls, l'un en face de l'autre. Créon, avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non, personne. Tu en es bien sûr? Oui. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi, je ferai disparaître ces trois hommes. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Un silence, il se regarde. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement, sans jamais trouver le repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison où mon père et ma mère, et Théocle aussi, l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté, un traître. Tu le savais. C'était mon frère. Tu avais entendu proclamer l'édit au carrefour? Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville? Oui. Tu savais le sort qu'il y était promis à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre des honneurs funèbres? Oui, je le savais. Tu as peut-être cru que d'être la fille d'Édipe, la fille de l'orgueil d'Édipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante en train de faire sa vaisselle, quand j'ai entendu lire l'édit, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras et je serais sorti avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Ce n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir et tu serais resté à pleurer ton frère chez toi. Seulement tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce et la fiancée de mon fils, et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez, j'étais certaine que vous me feriez mourir, au contraire. Créon la regarde et murmure soudain, l'orgueil d'Édipe. Tu es l'orgueil d'Édipe. Oui, maintenant que je l'ai retrouvé au fond de tes yeux, je le crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir. Et ça te paraissait un dénouement tout naturel pour toi. Orgueilleuse. Pour ton père non plus, je ne dis pas le bonheur, il n'en était pas question. Le malheur humain, c'était trop peu. L'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père et coucher avec votre mère et apprendre tout cela après, avidement, mot par mot. Quel breuvage, hein? Les mots qui vous condamnent. Et comme on les boit goulûment quand on s'appelle Édipe ou Antigone. Et le plus simple à paix, c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien non. Ces temps sont révolus pour Thèbes.
Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Créon, Dieu merci. J'ai mes deux pieds par terre, mes deux mains enfoncées dans mes poches, et puisque je suis roi, j'ai résolu, avec moins d'ambition de ton père, de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si c'est possible. Ce n'est même pas une aventure, c'est un métier pour tous les jours, et pas toujours drôle, comme tous les métiers. Mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Et si demain, un messager crasseux dévale du fond des montagnes pour m'annoncer qu'il n'est pas très sûr non plus de ma naissance, je le prierai tout simplement de s'en retourner d'où il vient, et je ne m'en irai pas pour si peu regarder ta tante sous le nez et me mettre à confronter des dates. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel. La petite fille, il a été à elle, il lui prend le bras. Alors écoute-moi bien. Tu es Antigone, tu es la fille d'Édipe, soit, mais tu as 20 ans. Il n'y a pas encore longtemps, tout cela se serait réglé par du pain sec et une paire de gifles. Te faire mourir. Tu t'es pas regardé, moineau. Tu es trop maigre. Grossis un peu plutôt pour faire un gros garçon aimant. Thèbes en a plus besoin que ta mort. Je te l'assure. Tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit et te taire. Je me charge du silence des autres. Allez, va. Et ne me foudroie pas du regard comme cela. Tu me prends pour une brute, c'est entendu, tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque, mais je t'aime bien tout de même avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée, il n'y a pas si longtemps. Antigone ne répond pas, elle va sortir, il l'arrête. Antigone, c'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Elle s'est arrêtée, elle lui répond doucement, sans forfanterie. Vous le savez bien. Un silence, ils se regardent encore debout l'un en face de l'autre. Créon murmure comme pour lui. Quel jeu joues-tu? Je ne joue pas. Tu ne comprendras pas que si quelqu'un d'autre que ces trois brutes sait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, je serai obligé de te faire mourir. Si tu te tais maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver. Mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes. Le comprends-tu? Il faut que j'aille enterrer mon frère que ces hommes ont découvert. Tu irais refaire ce geste absurde? Il y a une autre garde autour du corps de Polynice. Et même si tu parviens à le recouvrir encore, on dégagera son cadavre, tu le sais bien. Que peux-tu donc, sinon t'ensanglanter encore les ongles et te faire prendre? Rien d'autre que cela, je le sais. Mais cela, du moins, je le peux. Et il faut faire ce qu'on peut. Tu y crois donc vraiment, toi, à cet enterrement dans les règles? À cette ombre de ton frère condamné à errer toujours si on ne jette pas sur le cadavre un peu de terre avec la formule du prêtre? Tu l'auras déjà entendu la réciter au prêtre de Thèbes, la formule. Tu as vu ces pauvres têtes d'employés fatigués et courtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas du midi? Oui, je les ai vus. Est-ce que tu n'as jamais pensé alors que si c'était un être que tu aimais vraiment qui était là couché dans cette boîte, tu te mettrais à hurler, tout d'un coup, alors qu'il y ait de se taire, de s'en aller? Si, je l'ai pensé. Et tu risques ta mort maintenant parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué? C'est absurde! Oui, c'est absurde. Pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Pour les dresser contre moi? Non. Ni pour les autres, ni pour ton frère. Pour qui alors? Pour personne. Pour moi. Tu as donc bien envie de mourir? Tu as déjà l'air d'un petit gibier pris. Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Et si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement, c'est vrai. Créon se rapproche. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi, vous pouvez tout, mais cela vous ne le pouvez pas. Tu crois? Ni me sauver, ni me contraindre.
Le succès d'Antigone est tel que certains en arrivent même à le regretter. Le succès d'Antigone ne placerait-il pas dans l'ombre toutes les autres créations d'Anouilh? C'est du moins une idée que partage l'auteur du livre « Pour saluer Jean Anouilh », Christophe Mercier, que nous retrouvons maintenant dans d'autres extraits du passionnant film réalisé par Claude Santelli et produit par les films Pénélope, dirigé par Leslie Grimbert. Leslie Grimbert, que Canal Académie remercie vivement de s'être associée ainsi à cet hommage rendu à l'œuvre et à la vie de Jean Anouilh sur notre radio.
Son théâtre à lui commençait après, et que c'était tellement dommage d'avoir écrit Antigone parce qu'il avait écrit des pièces tellement mieux et qui étaient éternellement caché par Antigone en disant que tant qu'on aurait des textes imprimés de l'Antigone de Sophocle et des textes imprimés de l'Antigone d'Anouilh, il y aurait toujours des sujets de disserte de Bach qui porteraient là-dessus. Et je crois qu'il a vraiment regretté d'avoir écrit Antigone en disant c'est catastrophique pour l'ensemble de mon théâtre et je vais être catalogué, je resterai comme un auteur parallèle Sophocle-Anouilh.
1956, nouveau coup de tonnerre.
Je lui avais dit j'aimerais bien qu'un jour vous écriviez une pièce sur Robespierre.
Michel Bouquet.
Il avait grommelé, n'est-ce pas, dans sa moustache, et puis il m'avait dit oui, etc. Mais je dis, elle sera certainement très violente, mais ça peut être très intéressant, etc. Et puis, j'ai senti qu'il n'accrochait pas tellement à l'idée de ça, parce que je jouais l'Alouette à ce moment-là de lui. Et un jour, il est arrivé, 6 mois après environ, on jouait toujours l'Alouette, parce que ça a été un énorme succès. Et il était dans les coulisses pendant la scène de Charles VII et de Jeanne.
C'était Suzanne
et
Flon.
Suzanne Flon, oui, qui était admirable. Et il m'a fait un petit signe de la coulisse et pour ne pas me distraire, en me disant « j'ai quelque chose à vous dire ». Il avait un manuscrit sous le bras. Et puis je suis sorti de scène, l'entracte était après la scène de Jeanne et de Charles VII. Et il m'a pris par le bras. Et avec un clin d'œil, toujours le faisant ressembler à un des frères Marx, n'est-ce pas ? Il m'a dit, il s'appellera Bitos.
Roland Pietri et Michel Bouquet dans Pauvre Bitos ou le dîner de tête.
J'aimerais mieux aller vivre à Constantinople, chez le grand Turc, que de voir 600 médiocres faire ou défaire la France. Pourtant, si c'est quelques millions de médiocres qui les ont nommés sont la France, monsieur. Les hommes qui ont fait la France n'avaient de commun avec eux que de voir deux jambes et deux bras comme eux. Mais j'ai le regret de vous l'apprendre, une tête qui les dépassait. Dans les années qui vont venir, nous allons devoir nous employer à les couper, ces têtes qui les passent. L'ignoriez-vous, monsieur le comte de Mirabeau?
Ambitos, il m'a imposé une voix très rouge. N'est-ce pas? Et donc, oui, je parlais comme ça, avec une espèce de voix comme ça, extrêmement fausse. Et il me disait, plus c'est faux, plus c'est ça. Et je disais, mais quand même, qu'est-ce que vont penser les gens d'une chose pareille? Enfin, il a continué comme ça, etc. Puis je l'ai fait, et puis il avait raison. Et il avait raison, ce personnage était véritablement, je veux dire, une sorte d'insecte.
J'étais venu vous voir parce que je vous admirais. Eh ben, ça vous fera un poids de moi, c'est toujours lourd, l'admiration. Maintenant, je vous hais. Ça donnera un peu de tonus à votre prochain discours. Soignez votre diction, jeune homme, autant que vos haines.
Jean Anouilh.
C'est une pièce qui a fait un scandale à l'époque. Je suis sorti du théâtre dans la voiture de Jameau avec des gens qui tapaient à coups de canne sur la voiture. Qui n'étaient pas blindés, mais enfin, je m'en suis tiré.
Il me disait que même qu'il y avait un critique qui était mort de colère à la sortie de Bitos. Et il en était très fier.
Scandale dans la presse, on accuse Anouilh de fascisme. Tout le monde est ignoble, on sort de là écœuré, moins par les turpitudes de ceux qui nous ont servi de tête de turc que par l'acharnement étrange de l'auteur. Je n'ai pas souvent eu ce sentiment qu'on était là pour des heures, des jours, des semaines, des années, que sais-je. Signé Jean-Jacques Gauthier.
Mais vous lisez des fois ce que les gens écrivent sur vous et sur votre théâtre?
Oui, pensez bien que le théâtre, on finit par y aller critiquer. Mais maintenant, je ne lis plus les mauvais. Je suis devenu vieux et sage. Alors je dis, dites-moi les bons, puis j'achète les bons. Puis comme je ne vis pas à Paris, c'est très facile. Je ne trouve pas toujours les journaux. Ou alors on passe devant le kiosque, on dit je m'en fous, je n'achète pas.
Vous savez que vous avez une étiquette politique.
Oui, ça. Oui, ça, j'ai une étiquette, mais ça ne veut pas dire que le produit qui est en dessous de l'étiquette correspond à l'étiquette.
Vous la récusez, alors ?
Non, je ne la récuse pas. Je l'assume et je la trouve charmante. Je suis très content d'avoir une étiquette absolument scandaleuse. Ça, je trouve ça très bien. Dans ce que je pense vraiment, je ne l'ai jamais dit à personne exactement. Alors,
Jacques Nerson.
Bitos, il a quand même porté la blessure à un certain temps, je vois, je sais.
Je pense qu'il a... Mais à la fin de sa vie, je crois que... Et c'était ça qui rendait ses pièces plus légères, c'est qu'au fond, il en riait. Tout ça le faisait rire. Et c'est ce qui fait que ce sont les pièces que je préfère, parce qu'il y a une espèce de sagesse, un peu désespérée, mais il y a une vraie sagesse dans ce rire. C'est le rire du sage. Il y a un moment donné où, au-delà du désespoir, on débouche sur le fou rire.
Sophie Daumier et Michel Bouquet dans Le boulanger, la boulangère et le petit mitron.
Quoi, toi ?
Oui, moi aussi, je vais penser un peu à moi.
À toi, mais tu n'as jamais fait que penser à toi, égoïste, au lieu de penser à moi.
Moi?
Oui, toi.
Moi, je n'ai pensé qu'à moi alors que je ne pensais qu'à toi.
Tu mens, tu ne pensais qu'à toi, pas à moi, c'est moi qui ne pensais qu'à toi. Maintenant, moi, je pense à moi.
C'est trop fort, tu n'as pensé qu'à moi, toi.
Oui, qu'à toi, rien qu'à toi, et toi.
Moi.
Oui, as-tu jamais pensé à moi?
François Perrier.
Comment était-il avec les acteurs, alors, dans les répétitions?
Jaloux.
Oui.
Jaloux.
Ouais.
Il était jaloux de ne pas pouvoir le faire.
Acteur, il l'a été pourtant, ne serait-ce qu'épisodiquement. Un film de publicité réalisé par Paul Grimaud, scénario Jean Anouilh et Jean Orange.
Il avait un immense refoulement d'acteurs.
Jacques François.
Il aurait, je crois, adoré être acteur, en même temps qu'auteur, évidemment. Et moi, j'ai été, à un moment donné, avant cette fameuse arrestation, j'ai été un peu souffrant, et il venait me faire répéter avec Claude Dauphin, qui jouait l'autre rôle d'homme, chez moi, à Paris, dans mon appartement. Et il insistait énormément pour que, surtout, je ne me rétablisse pas trop vite. Jacques, surtout, pas d'imprudence. Pas d'imprudence parce que, éventuellement, la date est fixée au 15 janvier, mettons, je dis n'importe quoi. Je le jouerai.
Alors, on va y aller. Francis.
Oui.
Tout le monde est là.
Tout le monde, oui.
Bon. Et Yvon.
Oui.
Vous commencez seulement. On lève le rideau dans le noir et vous commencez l'éclairage doucement, rideau levé, hein. Bon, alors on y va, rideau.
François Perrier.
Il était le lien rêvé. Allez. Entre le public et l'auteur. C'est-à-dire qu'il faisait ce lien qui est difficile à déterminer. En fin de compte, être auteur de théâtre, c'est un peu particulier. C'est pas être auteur, c'est pas être écrivain simplement. C'est en même temps autre chose, ça fait partie d'une espèce de fête. Mais il y a un mystère qui commence avec les trois coups. Il y a ce silence avant la représentation. Taisez-vous tous, c'est moi qui vais parler. C'est impressionnant.
Jean Anouilh met en scène l'arrestation avec Claude Dauphin dans l'un des rôles principaux.
Bon, pardon.
Oui.
Une petite remarque là. Cette phrase là, pourquoi voulez-vous qu'on en sorte? C'est la clé au fond de l'histoire, puisque c'est ça, c'est l'homme qui revoit. Il faudrait qu'elle ait son mystère. Vous pouvez être goguenard dans la première partie, j'ai une théorie là-dessus, etc. Et puis tout d'un coup, la pendule arrêtée. Et pourquoi voulez-vous qu'on en sorte, puisqu'on a... C'est le moment où on doit faire sentir le mystère de cette histoire sur cette phrase. Alors, il faudrait pas... Là, vous l'avez presque dit en policier, vous croyez, pourquoi voulez-vous connaître ? Et pourquoi ? Il faut que le mystère soit là.
Ouais, hein. D'accord, ouais.
Puis, je me demande si on n'a pas tort de vous faire balader le Panama, la métaphysique et le Panama. Hein. Enfin, bah, ouais.
Vous l'aimez
on
bien.
La reprend. Hein.
Moi, je l'aime bien.
Suzanne Flon.
Dans La Nuit des Rois, dont il avait fait l'adaptation avec Nicolas Nouille, je devais entrer en garçon avec beaucoup de désinvolture. Et je n'arrivais pas à trouver la désinvolture. Il m'a aidé, il m'a dit entrer une rose à la main. Et ça m'a aidé tout de suite, je l'ai trouvé. Oui, il avait des moyens comme ça, simples, il ne s'embarrassait pas d'explications fumeuses, compliquées.
François Perrier.
Je ne l'ai jamais vu. N'ai entendu, et Dieu sait si je l'ai entendu et vu, je ne l'ai jamais vu en train de dire quelque chose de définitif à propos du théâtre. Et j'en ai entendu des conneries dans ce domaine. Des gens qui disaient « le théâtre, c'est ». Ils ont bien de la veine. Qu'est-ce que c'est le théâtre ?
Un peu plus loin, dans cette très belle réalisation de Claude Santelli, produite par Pénélope, film, une société dirigée par Leslie Grimbert, François Perrier continue de nous confier sur Jean Anouilh.
Il disait toujours, bon ben, on va essayer. Hein. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait au théâtre? On essaie.
Oui.
C'est, ce mot de répétition qui m'a toujours un peu intrigué, c'est vrai.
Suzanne Flon.
Oh, il était heureux au théâtre, c'était sa vie, c'était... Il était inquiet, mais en même temps heureux, c'était ça, là. Il était là, au théâtre, il s'occupait de tout. Il allait aux puces chercher des objets avec Jean-Denis Malclaise.
Comment était-il dans les répétitions générales? Je crois qu'il essayait de ne pas y assister, non?
François Perrier.
Oui, on ne savait pas où il était. Parce qu'en général, l'auteur, au moment, surtout quand comme à nous, il était en même temps metteur en scène, alors il disparaissait. Et tout d'un coup, on était sans personne. Sans personne à l'avant-scène. Mais il amenait cet instant toujours avec une grande délicatesse, sans qu'on s'en aperçoive. Et tout d'un coup, on se retrouvait seul, mais sans le vertige.
Michel Bouquet.
Il indique à partir de la caricature, parce que je pense que ce n'est qu'à partir de la déformation, de la caricature, que dans son théâtre, les choses s'expriment dans le vrai. Si vous voulez, je pense que c'est un auteur dramatique très considérable sur le plan du rythme, sur le plan de l'importance de la manière dont la vie est comprimée entre les choses. C'est un auteur qui a un muscle fantastique. Il est un peu parent de Molière dans ce sens-là. Il y a un muscle. C'est-à-dire que chaque chose, chaque événement vivant, enfin, sur scène, est extrêmement suivi d'un autre moment vivant, extrêmement important lui aussi, etc.
Donc, fatigant pour l'acteur.
Ce qui est très, très fatigant. On sort d'une pièce d'anouilh épuisée. Et il est bien évident que il va tout de suite à la caricature, c'est-à-dire il va tout de suite à la synthèse. C'est l'haute forme et le caleçon dans son écriture. Il mélange une jaquette, un monsieur en caleçon, en chemise de nuit et en haute forme. Bon, cette chose, cette image qui est extrêmement précise dans son esprit, il veut la rendre vivante sur le plateau. Et forcément, ça oblige l'acteur à partir de la caricature. Donc il faut nourrir la vérité intérieure du rôle ou l'imagination du rôle de telle manière que cette caricature ne soit plus une caricature, qu'elle soit l'expression, exacerbée, l'expression, enfin, éclatée du personnage.
Nicole Vassel et Jean-Pierre Marielle dans la pièce de théâtre La culotte.
Ah, il y avait trop longtemps.
La main aux fesses, je suis pas contre. Mais faudrait y mettre des sentiments.
Oh, plein de sentiments, c'est ça qu'elles n'ont jamais compris, que j'étais un sentimental. Oh, ô planète, ô solstice, ô rotondité merveilleuse, absolue métaphysique de la sphère, et elle voudrait nous faire croire que Dieu ne leur aurait donné que pour s'asseoir les impudiques, les impies, comme si Dieu avait des pensées aussi basses. Ah, le sens du sacré se perd.
C'est pour ça qu'on a fait la révolution. La femme, elle veut être respectée maintenant.
Mais je te respecte, ô femme éternelle, car tu me redonnes à moi-même. J'irais perdu sans toi, un orphelin. Je te respecte à pleine main.
C'est très intéressant dans le théâtre d'Anouilh, et les gens ne comprennent pas ça très bien maintenant, parce qu'ils s'en tiennent aux propos. Ils s'en tiennent et ils se choquent des propos un peu réactionnaires que ça, de temps en temps, c'est assez rigolo, la réaction, finalement. C'est pas quelque chose de si grave, quand même. Il faut pas exagérer. Et ils ne comprennent pas que c'est un monde d'insectes. Tout le théâtre d'Anouilh est un monde d'insectes qui grouillent comme ça de tous les côtés, dans des caves, sous des escaliers, n'est-ce pas, et qui fomentent des complots et des cruautés, des cruautés malsaines, des rancœurs, des choses comme ça. Et tout ce petit monde s'agite et est finalement très émouvant et peut-être représentatif d'une caricature de l'homme.
Un peu plus loin, Michel Bouquet conclut en disant:
moi, j'ai été frappé quand j'ai été chez le Bureau Fustimper un jour. Il avait un petit théâtre de singes. Et il y avait un petit théâtre de singes, comme on les faisait au XVIIIe siècle, qui jouait dans un orchestre des petits morceaux comme ça, et on entendait une petite musique comme ça, puis il s'agitait, les singes, Ben, c'est son théâtre. C'est ça, son théâtre. Mais c'est beau.
Deux stoutes violettes pour deux mondes.
ne vous monte pas à la tête, c'est bien honnête. L'amour c'est bête, comme ces petits bouquets ronds, c'est jamais qu'une amourette de sous-violette.
Je vous invite à rester toujours dans l'univers de Jean Anouilh, mais nous allons maintenant retourner vers nos studios de Canal Académie. Je vais en effet recevoir pour vous Philippe Gaxotte et parler avec lui dans un premier temps de la correspondance qui s'est établie entre Jean Anouilh et l'oncle de Philippe Gaxotte, l'académicien historien Pierre Gaxotte. Je recevrai ensuite la première biographe de Jean Anouilh, Anca Visdei. Au cours de cette émission Florilège consacrée aux réflexions, aux pensées, au théâtre de Jean Anouilh, nous avons le plaisir d'échanger maintenant avec Philippe Gaxotte. Bonjour Philippe Gaxotte.
Bonjour.
Vous avez un aïeul, un oncle prestigieux au sein de l'Académie française, l'académicien historien Pierre Gaxotte. Et concernant Jean Anouilh, alors il y a une correspondance entre votre oncle et Jean Anouilh. Dites-nous quand cette correspondance a commencé et pourquoi a-t-elle commencé ?
Cette correspondance que j'ai eu la chance de découvrir dans les dossiers très abondants de mon oncle, cette correspondance a commencé parce que Pierre Gaxotte avait l'intention de présenter Jean Anouilh à l'Académie française. Et celui-ci, malheureusement, on le verra, a toujours refusé. Et ce qui est un peu extraordinaire de la part de ce personnage si discret, si secret, n'est-ce pas, c'est qu'il explique assez en détail les raisons très intimes pour lesquelles il a refusé d'entrer à l'Académie.
Alors, Philippe Gaxotte, une question. Votre oncle, académicien historien, Pierre Gaxotte, s'intéressait donc au théâtre de Jean Anouilh. Il en avait lu les pièces de théâtre.
Il allait pratiquement à toutes les premières des pièces de Jean Anouilh. Et pratiquement chaque fois, il envoyait un petit billet à Jean Anouilh. Et les lecteurs de la correspondance pourront voir justement tout cet échange à la suite de chaque représentation, pratiquement. Et en remerciement, chaque fois que Pierre Gaxotte publiait un livre d'histoire ou d'autres, un roman comme Le Nouvel Ingénu, évidemment, il s'empressait d'en dédicacer un exemplaire à Jean Anouilh et ses dédicaces sont souvent pleines d'humour et charmantes. Voilà.
Donc, deux personnages qui s'appréciaient à travers leur œuvre réciproque.
Exactement, qui s'appréciaient beaucoup.
Et Philippe Gaxotte, vous avez connu votre oncle ? Vous avez échangé avec lui ?
Oui, beaucoup. Moi, je suis lorrain d'origine, mais je suis venu à Paris pour faire mes études de médecine et je vois très régulièrement Pierre Gaxotte, qui très gentiment m'invitait.
Philippe Gaxotte, votre oncle Pierre Gaxotte montrait un intérêt particulier pour le théâtre de Jean Anouilh, un intérêt aussi pour le théâtre en général.
Oui, alors plus spécialement pour le théâtre de Jean Anouilh, car en lisant cet échange de correspondance, on pourra voir qu'il assistait pratiquement à toutes les générales ou les premières des pièces de Jean Anouilh, et chaque fois il faisait son commentaire, et en remerciement, quand il avait lui-même pondu un livre, si je puis dire, il l'envoyait avec une dédicace en général charmante et un peu humoristique, à Jean Anouilh. Mais pour ce qui est du théâtre en général, il y a dans la correspondance que j'ai pu trouver des lettres de Marcel Achard, je cite au hasard, de Jean Cocteau, et il y a plus de nombreuses lettres, de Monterland, d'Ionesco. Vous voyez, il était très très attaché
à la création,
au théâtre en général, et oui, certainement.
Philippe Gaxotte, si vous pouviez nous lire quelques extraits de cette correspondance entre Pierre Gaxotte, votre oncle, et Jean Anouilh, le dramaturge. Vous avez sélectionné donc quelques extraits de ces lettres. Par quel extrait souhaitez-vous commencer ?
Eh bien, ce sont des extraits assez brefs, mais qui révèlent bien des aspects de la personnalité et de la grande culture de Jean Anouilh. Je prends par exemple, donc, mon oncle souhaitait proposer la candidature de Jean Anouilh à l'Académie française, et voici la première réponse de Jean Anouilh. « Ce que vous me dites si gentiment, et avec tellement de pudeur sur l'Académie, me touche aussi. C'est comme si vous me disiez, je connais un petit bistrot où je bois un verre de vin blanc tous les jeudis vers midi, pourquoi n'y passez-vous pas ? Nous aurions l'occasion de nous rencontrer, Et ce genre d'argument me fait fondre.
Mais veut-il y rentrer dans ce petit café, dans ce bar
Alors, justement. Alors, un peu après, je me permets de le dire, Pierre Gaxot lui a envoyé un exemplaire de son livre sur la Révolution française avec la dédicace suivante. Pour M. Jean Anouilh, cette version libre de Pauvre Bitos, avec la fidèle admiration de Pierre Gaxot, en attendant nos rendez-vous du jeudi, quand on approchera du Z. Il fait là allusion à la lettre Z au dictionnaire de l'Académie. Réponse de Jean Anouilh, votre dédicace m'a bien fait rire et flatté, mais je l'avoue, je suis bien content d'avoir écrit Bitos. Dans une autre lettre encore, il dit « La gentillesse et la patience d'un esprit à qui je dois tant devraient me déterminer à sauter le pas. Je le sens. Je ne puis que vous donner mon secret et ma franchise. Ma vie privée ne me permet pas d'être académicien. Ma vraie femme, secrète, est très jeune. J'ai un tout petit enfant avec elle. J'ai repris du service dans les biberons. J'ai toujours été père. J'ai commencé étudiant. Je ne peux vraiment pas leur faire ça. Ma notoriété me met déjà trop souvent en désaccord avec ma vraie vie. » Les extraits que je viens de citer datent des années 68-69 et en 1970, dans une autre lettre, je cite « Vous seul me feriez regretter les jeudis de l'Académie, mais je ne m'y vois pas. Et puis, je suis un baladin, pas un écrivain, Dieu merci. » Beaucoup plus tard, dans une autre lettre datée de 1976, Jean Anouilh écrit encore « Vos précieuses et charmantes lettres, entre parenthèses, je vous soupçonne d'user d'une plume sergent-major, ce qui est vrai, sont le morceau de sucre qu'on donne au cheval de cirque quand il a achevé et réussi à peu près son numéro. »
Beaucoup d'humour.
Voilà, en effet, il y a un échange d'humour et une ouverture sur la pudeur de Jean Anouilh qui nous paraît extrêmement importante.
Mais
et très
volonté intéressant. Ferme de préserver sa vie privée,
voilà,
et sa vie familiale.
Voilà, voilà.
Les auditeurs de Cannes l'Académie ont une chance de lire cette correspondance quand, comment,
Alors,
Philippe Gaxot.
La publication est faite pratiquement et doit sortir incessamment dans une revue littéraire québécoise qui s'appelle Études littéraires. Cet échange de correspondance est préfacé par le professeur Bernard Beugnot. Mais nous aimerions tous que cette même correspondance soit publiée dans une revue française également, qui aurait ici, dans notre pays, une diffusion plus grande. Et nous espérons bientôt pouvoir le réaliser.
Mais espérons que cette année du centenaire de la naissance de Jean Anouilh vous permette de voir cette publication très prochainement. C'est une affaire à suivre. Merci en tout cas de nous avoir rejoints dans les studios de Canal Académie. Merci.
Merci.
Il y en a qui se paient des azalées, des lys, des orchidées, des fleurs toutes arabiscotées, qui ne sentent rien du tout. Moi, les fleurs que j'ai toujours aimées sont celles qu'on achète dessous de violette pour deux ronds. Ça sent bon, ça ne vous monte pas à la tête, c'est bien honnête. L'amour est c'est bête, comme ces petits bouquets ronds, c'est jamais qu'une amourette de sous-violette.
Canal Académie a le grand plaisir de recevoir maintenant en grande exclusivité pour ses programmes Anka Visdehi. Anka Visdehi, bonjour. Anka, vous êtes auteur et metteur en scène. Vous avez écrit une trentaine de pièces, publiées par plusieurs maisons d'édition, jouées en France, à l'étranger, récompensées par de nombreux prix. Vous avez écrit également du théâtre pour la jeunesse, des contes, les petits contes cruels, des nouvelles, des scénarios réalisés à la télévision comme au cinéma. Et vous vous êtes aussi adonné à l'écriture de deux romans, L'exil d'Alexandra chez Actes Sud et Confession d'une séductrice aux éditions Favre. Là, la grande nouveauté que vous annoncez aujourd'hui devant les micros de Canal Académie, Anka Visdehi, c'est que vous êtes l'auteur, depuis le mois de juin, la publication, je crois, remonte à ce dernier mois de juin 2010, de la première biographie sur Jean Anouilh. Et au cours d'une première émission que nous avons réalisée devant les micros de Canal Academy, en compagnie du professeur Beugnot, en compagnie du critique littéraire et auteur Christophe Mercier et de la propre fille Colombe Anouilh, la propre fille de Jean Anouilh, nous nous étions tous dit « Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de biographie consacrée au grand dramaturge Jean Anouilh ?» Et tous avaient apporté des réponses à ma question. Aujourd'hui, vous êtes l'auteur de cette première biographie et vous nous rappelez, en quatrième couverture de votre biographie, qu'en 1946, Jean Anouilh écrivait lui-même « Je n'ai pas de biographie et j'en suis très content ». Alors, c'est un acte de désobéissance par rapport à la propre volonté de Jean Anouilh en Cavis Dei. Racontez-nous le pourquoi et le comment de l'écriture de cette biographie.
J'ai toujours considéré comme une chance fabuleuse d'avoir des gens que l'on respecte et qui constituent des modèles. Et des gens, chers et Anouilh, qu'on a connus. Anouilh a été pour moi vraiment un père spirituel, un modèle, une raison de ne pas désespérer. Donc pendant longtemps, j'ai admiré son élégance qui était très britannique dans le style « never explain, never complain ». Quand il était attaqué, même injustement, il ne se défendait jamais. À moins que ce soit sur le plan professionnel. Il lui est arrivé de répondre en première page du Figaro par un article plein de charme dont le sujet était « Bravo, monsieur Anouilh, continuez », signé Jean Anouilh. Donc sur le plan professionnel, il se défendait, mais sur le plan privé, son élégance, à la fois sa pudeur, son immense pudeur qu'il a gardée toujours, lui conseillait de ne pas entrer dans le débat. Et jusqu'à un certain moment, je trouvais que cette attitude était remarquable, qu'elle était pleine de force et je l'admirais. Plusieurs années après sa mort, j'ai trouvé qu'on entendait tellement de choses fausses sur lui, mais toujours les mêmes préjugés répétés inlassablement, qui étaient des contre-vérités absolues. Et là, je trouvais que le fléau de la balance penchait, que j'étais carrément coupable de non-assistance à honnête homme, à réputation d'honnête homme en danger, si je ne réagissais pas. Et vu ce que je lui ai vu, entendu dire, ce que je lui ai vu faire, il avait une attitude tellement paternelle, professionnelle, avec beaucoup de jeunes auteurs dont il lisait les œuvres, auxquelles il répondait par des longues lettres bien fouillées des critiques, dont je trouvais que ça devenait un devoir de témoigner de ce que j'avais vu.
Parce que vous l'avez rencontré, vous l'avez connu en Cavis Dei, vous avez connu et parlé avec Jean Anouilh.
J'ai eu cette chance. Il était extrêmement secret. Ce n'était pas un misanthrope, c'était un homme secret qui se protégeait. Je suis allée l'interviewer comme journaliste. J'ai eu quelques peines parce qu'il ne recevait pas les journalistes en principe. Il trouvait aussi qu'il avait tout dit dans ses œuvres, de même qu'il disait que sa biographie c'était son propre problème sauf la liste des pièces et qu'il ne voulait avoir d'autres rapports avec la presse qu'éventuellement la presse et l'État que les feuilles de route et sous toute réserve les feuilles d'impôt. Et ce qui a été magnifique, c'est que dès la première rencontre, j'ai trouvé quelqu'un d'extrêmement ouvert, extrêmement attentif. C'est une chose que ses enfants disent aussi. C'était quelqu'un qui ne parlait pas de lui. Il s'intéressait toujours à vous. Comment vous allez? Qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire? Chaque nouvelle pièce que j'écrivais, je la lui envoyais, il la lisait, il me recommandait à des gens, il se donnait de la peine, il appelait les directeurs de théâtre, c'est extraordinaire. Alors, quand vous avez vu ça et que vous entendez en même temps qu'il a une image d'homme aigri et d'auteur aigri, vous n'en croyez pas vos oreilles, donc vous passez à l'acte. Je dois vous avouer que ça a été mon livre le plus difficile à écrire, parce qu'il est très dur d'écrire sur quelqu'un auquel, au fond, vous ne trouvez pas de défaut. En des années d'amitié, je n'en trouve pas, je n'ai pas trouvé un seul défaut. Donc, il fallait que je sois à la fois précise. Je n'ai fait toujours que de la fiction. C'était ma première biographie, une biographie sur quelqu'un que vous connaissez, en plus que vous admirez. C'est dur. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est notre correspondance. Nous avons porté une correspondance jusqu'à sa disparition. Et me replongeant dans cette correspondance, j'entendais de nouveau sa voix et je me disais qu'il allait bien me pardonner si, pour dire la vérité, j'allais un peu passer outre son désir de rester secret.
Alors, ce livre vient d'être publié aux éditions Les Signes. Parlez-nous de cette édition.
C'est une maison d'édition artisanale qui fait un travail absolument fabuleux sur le niveau de la qualité du livre. Mes romans étant chez Actes Sud, et la littérature jeunesse chez Actes Sud et à l'avant-scène, j'ai trouvé que pour tout ce qui était théâtral, ils étaient d'une précision exceptionnelle. C'est une éditrice, Monique de Montremy, qui fait merveilleusement bien son boulot. Un travail très très fouillé, on a vraiment fait des corrections. Et j'ai eu le bonheur de faire chez elle deux livres, les rééditions de mes pièces de théâtre épuisées, Mademoiselle Chanel et Toc. Et maintenant, pour cette biographie, comme c'était un travail extrêmement fouillé, il y a eu le professeur Beugnot qui a rédigé l'appareil critique de la Pléiade, qui est merveilleusement bien fait. C'est lui-même qui nous fait aussi notre préface. Donc, on tenait à tout prix que le livre soit aussi parfait que possible, même sur un plan bibliographique et critique, tout en donnant une biographie. Et à la fin, il y a une soixantaine de pages que j'ai intitulée « La mémoire vive » et où je cite mes propres souvenirs d'Anouilh, de nos rencontres et beaucoup de notre correspondance où il est franchement brillant, où en le lisant, on ressuscite son visage, sa voix et son âme qui était assez magnifique.
Séduisant et convaincant, ce sont les deux termes utilisés à votre égard, à l'égard de cette biographie par le professeur Bernard Beugnot qui a enseigné à nous, aux étudiants du Québec et qui était devant les micros de Canal Académie au cours de la première émission que nous avons consacrée à Jean Anouilh. Un auteur inconsolable et gai, apposez-vous au titre générique Anouilh de votre biographie en cas Visdei. Inconsolable et gai, ce sont vraiment les deux adjectifs qui correspondent le mieux, qui définissent le mieux Anouilh.
Complètement. J'ai trouvé que c'est une expression de lui. L'homme est un animal inconsolable et gai. Il l'utilise dans trois pièces, dont Les Poissons Rouges, et également il l'utilise dans La Petite Molière. Car l'immense sympathie, la dette d'honneur, l'admiration que je vois à Anouilh, il l'a voué également à son maître, à Molière. Et cette expression, il l'a trouvée en essayant de donner un raccourci de ce qui le passionnait dans le métier d'auteur dramatique, ce dont il était reconnaissant à Molière, c'est-à-dire le drôle de métier de faire rire les honnêtes gens. Et je crois qu'il pratiquait ça avec beaucoup de classe, avec beaucoup de distinction. C'était aussi un grand professionnel parce qu'on en voit l'écriture d'Anouilh, elle va très très bien à l'économie. C'est un grand styliste. Ça, l'apparence, c'est du théâtre, donc ça a l'apparence de la facilité. Mais au fond, derrière, il y a un vécu, une position éthique et morale extraordinaire et qui se traduit par une apparente simplicité, ce qui est aussi de l'élégance. Et je crois que Inconsolable et gai, ça lui allait merveilleusement. Les gens pensent que c'était un homme désabusé. Ce n'était pas un homme désabusé, c'était un humaniste lucide. Il faut dire que les raisons de désespérer sont bien nombreuses. Mais je trouvais que ça lui allait bien, parce que même dans sa conversation, on avait une sorte de politesse, je dirais même politesse de désespoir. J'ai vu Cioran qui avait un peu la même classe, mais je me permettrais de dire qu'Anouilh était quelque part plus agréable à fréquenter. Il mettait un tel point d'honneur à être toujours positif, étrangement positif, tout en ayant un regard extrêmement lucide sur le monde. Il y avait aussi des très belles choses qu'il me disait sur le fait de continuer à travailler. Et au fond, c'était un très grand bosseur. Et je crois que ça fait partie de la mésentente à un moment donné entre lui et une partie de la critique, c'est-à-dire qu'il vouait toute son énergie à son travail. Ce qui lui restait d'énergie, il la vouait à sa famille, car c'était un mari, un amoureux, un père, surtout un papa extraordinaire. Donc je pense qu'il n'entrait pas du tout dans le débat et c'est pour ça que la biographie restitue un peu, je parle de l'œuvre qu'il a eue et en même temps de ce qu'il vivait dans sa vie, tant personnelle que dans sa vie sociale, politique. Et c'est très intéressant de voir, pour moi c'est une grande leçon de courage pour les auteurs et je dirais même les artistes contemporains. Parce que de son temps, un auteur dramatique était carrément une star. On sait très bien qu'ils en vivaient confortablement. Et lui qui a commencé tellement pauvre, misérable, n'étant pas, ne faisant pas partie du milieu, Jouvet l'appelait le miteux. Il est devenu un auteur mondialement connu. Je sais pas, moi j'ai vu le Beckett avec Richard Burton et Peter O'Toole et je ne savais pas que c'est le scénario de Anouilh qui avait servi de base. J'entends, c'était quelqu'un qui était connu dans le monde entier. Il avait jusqu'à 6 pièces jouées en même temps à Moscou. Donc c'était une vedette internationale. Et à côté de ça, retrouver un homme aussi simple, un sage, c'est impressionnant. Et je pensais que c'était important de le dire, car toute cette partie d'immense vedette internationale, c'est ce qu'il était, est un peu méconnu. Deux générations après, on l'ignore. Donc je trouvais que c'était intéressant de parler de cela aujourd'hui, quand les jeunes artistes, quel que soit leur domaine, réalisateurs, plasticiens, écrivains, auteurs dramatiques surtout, c'est de plus en plus dur, je trouvais que cette biographie était une leçon des débuts. Et c'était une manière de montrer comment, lorsqu'on veut vraiment exercer son métier éthiquement et professionnellement de façon correcte, on y arrive toujours, quelles que soient les difficultés.
Anka Vizdehi, merci de votre venue devant les micros de Canal Academy. Et nous avons donc le grand plaisir d'avoir accueilli la première biographe de Jean Anouilh. Et nous recitons donc votre ouvrage « Anouilh, un auteur inconsolable et gai » paru aux éditions Les Signes. Merci.
Merci.
Nous terminons maintenant cette grande émission que Canal Academy a pu réaliser grâce au concours de Lestie Grimbert et des films Pénélope, ainsi que grâce à Brune Berge et à la collection À voix haute parue chez Gallimard. Nous terminons cette émission consacrée à la vie, à l'œuvre du grand dramaturge Jean Anouilh, en l'écoutant lui-même nous parler et interpréter Antigone.
Pauvre Antigone avec ta fleur de cotillon, sais-tu qui était ton frère? Je savais que vous diriez du mal de lui, en tout cas. Un petit fêtard imbécile, un petit carnassier dur et sans âme, une petite brute tout juste bonne à aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser deux fois plus d'argent dans les bars. Une fois j'étais là, ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'il avait perdue au jeu. Il est devenu tout pâle et il a levé le poing en criant un mot ignoble. C'est pas vrai, son poing de brute a tout volé dans le visage de ton père. C'était pitoyable, ton père était assis à sa table, la tête dans ses mains, il saignait du nez. Il pleurait. Et dans un coin du bureau, Polynice, ricanant, qui allumait une cigarette. « N'est pas vrai ! Rappelle-toi, tu avais 12 ans. Vous ne l'avez pas revu pendant longtemps. C'est vrai, cela ? Oui, c'est vrai. C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Il s'est engagé dans l'armée argienne. Et dès qu'il a été chez les Argiens, la chasse à l'homme a commencé contre ton père, contre ce vieil homme qui ne se décidait pas à mourir, à lâcher son royaume. Les attentats se succédaient et les tueurs que nous prenions finissaient toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui. Pas seulement de lui, d'ailleurs. Car c'est cela que je veux que tu saches. Les coulisses de ce drame où tu brûles de jouer un rôle. La cuisine. J'ai fait faire hier des funérailles grandioses à Éthéocle. Éthéocle est un héros et un saint pour Thèbes maintenant. Tout le peuple était là. Les enfants des écoles ont donné tous les sous de leur tirelire pour la couronne. Des vieillards, faussement émus, ont magnifié avec des trémolos dans la voix le bon frère, le fils fidèle d'Édipe, le prince loyal. Moi aussi, j'ai fait un discours. Et tous les prêtres de Thèbes au grand complet avec la tête de circonstance et les honneurs militaires. Il fallait bien. Tu penses que je ne pouvais tout de même pas m'offrir le luxe d'une crapule dans les deux camps. Mais je vais te dire quelque chose à toi, quelque chose que je sais seul, quelque chose d'effroyable. Éthéocle, ce prix de vertu, ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Le prince loyal avait décidé lui aussi de vendre Thèbes au plus offrant. Oui, crois-tu que c'est drôle? Cette trahison pour laquelle le corps de Polynice est en train de pourrir au soleil, j'ai la preuve maintenant qu'Éthéocle, qui dort dans son tombeau de marbre, se préparait lui aussi à la commettre. C'est un hasard si Polynice a réussi son coup avant lui. Nous avons eu affaire à deux larrons en foire qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant et qui se sont égorgés comme deux petits voyous qu'ils étaient pour un règlement de compte. Mais il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'Inde. Alors j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres. On les a retrouvés embrassés. Pour la première fois de leur vie, sans doute. Ils s'étaient embrochés mutuellement, et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Ils étaient en bouillie, Antigone, méconnaissable. J'ai fait ramasser un décor, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales, et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était, je ne sais même pas lequel. Et je t'assure que cela m'est égal. Il y a un long silence. Il ne bouge pas sans se regarder, puis Antigone dit doucement « Pourquoi m'avez-vous raconté cela ?» Créon se lève et remet sa veste. Fallait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire ?
Peut-être. Moi, je croyais. Il y a un silence encore, Créon s'approche d'elle. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant ? Antigone se lève comme une somnambule. Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seul. Va voir Aimon ce matin. Marie-toi vite. Oui, tu as toute ta vie devant toi. Notre discussion était bien oiseuse, je te l'assure. Tu as ce trésor, toi encore. Oui, rien d'autre ne compte. Et tu allais le gaspiller. Je te comprends, j'aurais fait comme toi à 20 ans. C'est pour cela que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un petit Créon maigre et pâle comme toi et qui ne pensait qu'à tout donner lui aussi. Marie-toi vite, Antigone, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains, vite, retiens-la. Tu verras, ça deviendra une petite chose dure et simple qu'on grignote assis au soleil. Ils te diront tous le contraire, parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ne les écoute pas. Ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau des Théocles. Ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi, trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. Un outil qu'on tient bien dans sa main. Un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore, mais de découvrir cela, tu verras. C'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Antigone murmure, le regard perdu. Le bonheur. Créon a comme un peu honte, soudain. Un pauvre mot, hein ? Antigone, doucement. Quel sera-t-il, mon bonheur ? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, Antigone ? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur ? Dites, à qui devra-t-elle mentir ? À qui sourire ? À qui se vendre ? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard ?
Tu es folle, tais-toi !
Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse. Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre.
Tu aimes Aimon ?
Oui, j'aime Aimon. J'aime un Aimon dur et jeune, un Aimon exigeant et fidèle comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur, doivent passer sur lui avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur Aimon, s'il doit apprendre à dire oui lui aussi, alors je n'aime plus Aimon. Tu ne sais plus ce que tu dis, tais-toi. Oui, si, je sais ce que je dis, mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant, d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse. Votre ventre. Oh, je ris, Créon, je ris parce que je te vois 15 ans tout d'un coup. C'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement ajouté tous ces petits plis sur ton visage et cette graisse autour de toi.
La secoue, te tairas-tu, enfin ?
Pourquoi veux-tu me faire taire ? Parce que tu sais que j'ai raison ? Tu crois que je ne le lis pas dans tes yeux ? Que tu le sais ? Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais, parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment, comme un os, le tien et le mien, oui ! Imbécile, vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours si on n'est pas trop exigeant. Moi je veux tout, tout de suite, et que ce soit entier, ou alors je refuse.
Ça ne vous monte pas à la tête, c'est bien honnête. L'amour, c'est bête, comme ces petits bouquets ronds. C'est jamais qu'une amourette de soule violette. Y en a qui se paient des azalées, des lys, des orchidées. Des fleurs toutes arabiscotées qui ne sentent rien du tout. Moi, les fleurs que j'ai toujours aimées sont celles qu'on achète dessous. Dessous de violettes pour 2 ronds.
ça ne vous monte pas à la tête, c'est bien honnête. L'amour est c'est bête comme c'est petit.